Merci de rester à l'écoute de RFI, il est 11h à Paris et 10h en temps universel. Le journal, c'est tout de suite avec vous, Charlotte Tidrac. Charlotte, bonjour.
Bonjour Caroline Paré, bonjour à toutes et à tous. L'entrepreneur le plus riche du monde, futur ministre aux États-Unis, Elon Musk nommé par Donald Trump au nouveau portefeuille de l'efficacité gouvernementale, ça c'était attendu. La nomination du futur ministre de la Défense est plus surprenante, on y revient dans un petit instant. Les difficiles négociations à la COP29 sur le climat en Azerbaïdjan, mais une avancée concrète tout de même, le fonds pertes et préjudices est désormais opérationnel. À suivre aussi, ambiance ville morte à Maputo, au Mozambique. L'opposition appelle à de nouvelles manifestations à partir d'aujourd'hui. Et cela après la victoire proclamée du parti au pouvoir aux dernières élections. En France, le Sénat a les cartes en main pour l'examen du budget 2025. C'est le texte initial qui arrive à la Chambre haute après son rejet par les députés. Mais le casting continue de se préciser aux États-Unis pour la future administration américaine. Nouvelle nomination donc annoncée par le président élu, Donald Trump. Certaines étaient attendues, d'autres moins, comme celle du ministre de la Défense, Guillaume Nodin.
Oui, il s'appelle Pete Hegseth. C'est un ancien militaire, mais il ne fait pas partie de la haute hiérarchie de l'armée. Il était jusqu'ici animateur sur la chaîne Fox News et en particulier dans l'émission matinale Fox and Friends, la préférée de Donald Trump, dont il est un fervent soutien. Donald Trump a aussi trouvé le futur patron de la CIA. Il s'agit de l'ancien représentant du Texas, Jim Ratcliffe, qui a aussi été directeur national du renseignement au cours de la dernière année du premier mandat Trump. Dans son communiqué, Donald Trump lui sait gré d'avoir dénoncé comme une manœuvre des démocrates les accusations de collusion avec la Russie contre lui. Un fidèle donc, comme deux autres dont la nomination était attendue et qui est confirmée, le milliardaire Elon Musk, qui sera accompagné de l'entrepreneur et candidat à la primaire républicaine Vivek Ramaswamy. Ils vont prendre en main un ministère de l'efficacité gouvernementale nouvellement créé. Enfin, Donald Trump a nommé son ambassadeur en Israël. Il s'agit de Mike Huckabee, ancien gouverneur de l'Arkansas et personnalité chrétienne évangélique influente, favorable notamment à la colonisation en Cisjordanie.
Donald Trump qui retrouve un terrain connu tout à l'heure, il sera reçu à la Maison Blanche par le président sortant Joe Biden, qui lui a promis un transfert de pouvoir pacifique et ordonné. Israël et sa guerre multifront. De nouvelles frappes ont visé ce matin la banlieue sud de Beyrouth, la capitale libanaise, fief du Hezbollah, soutenu par Téhéran. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique est attendu justement en Iran aujourd'hui pour des discussions sur le programme nucléaire de la République islamique. Selon Raphaël Grossi, les Iraniens n'ont pas d'armes nucléaires à ce stade, il l'a dit lors d'une interview à la chaîne américaine CNN, mais ils disposent d'un nombre important de matières qui pourraient être utilisées pour en fabriquer. Les discours se suivent et ne se ressemblent pas. À la COP29 en Azerbaïdjan, entre défense des énergies fossiles et pays très volontaires pour financer les États les plus touchés par le réchauffement climatique. À la tribune ce mercredi, la chef du gouvernement italien et le premier ministre russe également. Les négociations sur une aide financière aux pays en développement s'annoncent difficiles. Une avancée concrète tout de même. À cette COP, le fonds de réponse aux pertes et préjudices est désormais opérationnel. Ce fonds destiné à soutenir les pays vulnérables après une catastrophe climatique pour réparer les dégâts et compenser les pertes, comme son nom l'indique, Jeanne Richard.
Je pense que vous méritez des applaudissements pour tout ce que vous avez fait.
Sourire aux lèvres, le nouveau directeur du fonds Pertes et Préjudices, le Sénégalais Ibrahima Cheikh Diong, signe avec ses pairs le protocole de lancement du fonds. Un jour historique qui marque l'importance des négociations climatiques et de la coopération internationale. Jusqu'à présent, 722 millions de dollars ont été promis pour abonder le fonds et les premières sommes pourront être déboursées dès l'année prochaine.
On l'a dit encore et encore, on est extrêmement reconnaissant pour l'argent qui a été promis jusqu'à maintenant. Et on attend de voir se concrétiser ces promesses pour qu'on puisse commencer à agir au plus vite. On l'a aussi répété, les besoins sont plutôt de l'ordre de milliards de dollars. Donc on continue à lancer un appel à l'action et aux dons pour répondre à la demande des pays en développement.
car les centaines de millions promis par les pays développés correspondent à peu près aux revenus des 10 joueurs de football les mieux payés au monde, a pour sa part déploré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, soit même pas le quart des dommages causés au Vietnam par l'ouragan Yagi en septembre dernier, a-t-il ajouté.
Jeanne Richard, l'Ukraine en alerte, les autorités mettent en garde contre une attaque de missiles russes sur la capitale Kiev. Et cela alors que le futur ex-chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est aujourd'hui à Bruxelles pour des rencontres avec des responsables de l'OTAN et de l'Union européenne pour tenter d'accélérer l'aide à destination de l'Ukraine. Un appel à la grève générale pour 3 jours au Mozambique. Nouvelle mobilisation lancée par l'opposant Venancio Mondlane, lui-même en exil. Manifestation pour contester la victoire proclamée du parti au pouvoir, le Frelimo, aux élections du mois dernier. Selon l'ONG Human Rights Watch, au moins 30 personnes ont déjà été tuées dans les violences post-électorales. Et ce matin, les activités dans la capitale du Mozambique, Maputo, ces activités sont à l'arrêt. Le centre-ville déserté par les commerçants, Amélie Tullet.
Sur l'avenue Karl Marx, il n'y a pas âme qui vive. Olga Raimundo y vend des sodas. Elle gagne environ 200 metikaïs par jour, moins de 3 euros. Mais aujourd'hui encore, elle doit fermer boutique.
J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. J'ai des enfants. Et si on me tire dessus? Les manifestations nous coûtent à nous qui vendons dans la rue. Mais c'est peut-être aussi une bonne chose. Le prix de la nourriture a augmenté. On ne peut pas envoyer nos enfants à l'université. Les choses basiques coûtent cher.
Julieta Domingos vend des tickets de loterie. Depuis le début de la contestation, elle a perdu près de 2000 metikaïs, soit 30 euros, près du tiers de son loyer, ce qui n'empêche pas son engagement dans la contestation.
Ça fait presque 15 jours que je ne travaille pas. Moi, je ne gagne de l'argent que si je sors. Ils disent qu'il faut des sacrifices pour que les choses aillent mieux. Alors nous devons manifester. Moi, je crois qu'il va y avoir du changement.
Le nez sous un capot, Moisés, 20 ans, répare des voitures. Son garage, c'est la rue à Agostinho Neto, car il n'a pas les moyens d'avoir un local et ne trouve pas d'emploi.
En vérité, j'ai déjà perdu beaucoup d'argent, mais je soutiens le mouvement. Ça en vaut la peine, parce que ça fait 50 ans que l'on souffre. On est fatigué de vivre depuis 49 ans avec un seul parti qui ne fait rien. On ne vit pas, on survit.
D'après le Centre pour l'intégrité publique, une organisation de la société civile, la contestation électorale a déjà coûté au Mozambique près de 360 millions d'euros.
Un changement de ton pour le Premier ministre au Sénégal à quelques jours des législatives. Ce sera dimanche. Ousmane Sonko a appelé ses partisans au calme hier soir, quelques heures après les avoir au contraire appelés à se venger, je cite, suite à des violences contre ses militants. En France, pour la première fois sous la Ve République, un budget a été rejeté par l'Assemblée hier soir. 362 voix contre cette version largement remaniée par la gauche et qui prévoyait de nouveaux impôts. Conséquence de ce rejet, Raphaël Delvolvé, le texte repart au Sénat dans sa version initiale.
Hier soir, les plus satisfaits, c'était les Républicains. Le député Vincent Jeanbrun, soutien du gouvernement.
On a toute confiance dans nos amis sénateurs pour que l'essentiel des amendements qui étaient très importants pour nous puissent être pris en compte par nos collègues sénateurs et y compris par le gouvernement.
Le budget qui sortira du Sénat risque de porter le sceau de la droite, jamais avare en termes d'économie et plus influente que les macronistes à la Chambre haute. La gauche le sait et attend avec impatience le retour du texte à l'Assemblée nationale. L'insoumis Éric Coquerel, pas surpris du résultat hier soir.
Mais à un moment donné, qu'il fasse, il faudra qu'il revienne à l'Assemblée. Donc le gouvernement essaiera de faire sûrement un 49-3, puis là on aura l'heure de vérité, parce qu'il y aura une motion de censure. Le but final, c'est de battre le gouvernement et son budget, très clairement.
Si le nouveau Front Populaire veut renverser le gouvernement, il lui faudra les voix de l'extrême opposé de l'hémicycle, celle du Rassemblement National. Si le RN a rejeté le budget hier soir, il reste menaçant à l'encontre de Michel Barnier. Le député Jean-Philippe Tanguy.
Il est temps que Michel Barnier propose un budget qui prenne en compte la volonté des Françaises et des Français. Je n'ai pas spécialement confiance dans des sénateurs qui sont avec Michel Barnier.
Comment continuer de mettre la pression sur un gouvernement qui, pour le moment, n'a rien cédé au RN? Du moins, le recul sur le gel des pensions de retraite annoncé lundi semble insuffisant.
En Martinique, il est l'une des figures du mouvement contre la vie chère. Rodrigue Petitot, dit le R, placé en garde à vue à Fort-de-France, interpellé. Donc il s'était introduit dans l'enceinte de la résidence du préfet. Alors que le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, est actuellement en visite en Martinique, ce territoire français secoué par des violences depuis le mois de septembre. 11h10 presque ici à Paris. Tout de suite, on vous retrouve. Emmanuel Bastide pour 8 milliards de voisins, la tête dans les toi. À tout à l'heure.